L'enseignement cet après-midi, c'est sur le gender. Ce que nous allons dire, on va d'abord le résumer très brièvement, c'est que si on reconnaît sa qualité de créature, qu'on accepte Dieu, qu'on se tourne vers lui, une première conséquence, c'est un équilibre et la pureté. Et à ce moment-là, tout prend sa place. Et ça va. Si on rejette Dieu, que l'homme veut prendre la place de Dieu, se façonner lui-même, la conséquence auquel cela nous conduit, c'est invariablement l'impureté, avec un ensemble de désordres qui peuvent être, entre autres, le gender. Et donc, cet enseignement a pour but aussi de nous comprendre combien il faut nous tourner vers Dieu pour vivre de lui, et ce sera source d'une joie profonde. Alors vous avez d'abord le plan qui est exposé, ou qui va l'être, voilà. Donc on va dire d'abord ce que c'est que le gender, rapidement. On va voir une conception de l'homme, l'anthropologie, qui a derrière le gender une anthropologie dualiste ou au contraire une anthropologie unitaire plus chrétienne. On va donner une réponse médicale au gender, brièvement mais fondamentale. Et ensuite, nous regarderons la splendeur de la révélation biblique, hein, ce qu'elle nous est dit, on le verra en trois points, la création, et puis ce qu'en dit saint Paul, et puis le sommet, l'accomplissement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et on tirera quelques conclusions pour qu'on ait beaucoup d'ardeur. Alors d'abord, le gender, qu'est-ce que c'est? Quelles sont ces idées? Alors l'idée principale domine le gender, c'est que chaque personne s'autodétermine elle-même indépendamment de sa réalité biologique. Et quand on est, on estime que il faut, pour se déterminer si c'est pas la réalité biologique, sur quoi on va s'appuyer, eh bien, ce seront surtout le ressenti. Voilà, ce que je ressens est finalement le sentiment. Hein, je me sens comme si, je me sens comme ça. Voilà. Et on estime que on peut naître dans un mauvais corps. Voilà, c'est une souffrance. Eh bien, je suis un homme et je suis né dans un corps de femme. C'est embêtant. Voilà. Donc, il faut essayer de remettre de l'ordre là-dedans, hein, d'accorder sa réalité biologique à son ressenti. Voilà. Et ceux qui sont partisans du gender estiment que le fait de répartir la nature humaine en deux sexes, homme-femme, c'est un système binaire, ce qui évidemment est péjoratif. Et que c'est là l'origine de beaucoup d'injustices et même de discriminations. On parle du sexe assigné à la naissance par le médecin. Ce n'est plus une réalité objective, identique, mais c'est voilà, quelqu'un qui a décidé, il m'attribue comme ça. Voilà. Et ces pensées-là sont véhiculées pour qu'elles pénètrent, hein, elles arrivent à pénétrer. Donc, il y a des pressions sociales qui vont fortement dans ce sens. Alors, quelles sont les pressions? Ben, vous avez nombre d'institutions, gouvernements, entreprises, écoles, médias, qui adhèrent à cela, et on est un peu poussé. Bon. Les personnes qui sont transgenres demandent à ce que leur choix soit publiquement reconnu, qu'on appelle leur changement de prénom, et qu'on dise « Yel » ou je ne sais pas. Hein, et la personne qui résiste à cela est calculée d'homophobe, de transphobe, et même on dit qu'elle est haineuse, elle est pleine de haine. Hein, et ce n'est pas bien d'être dans la haine. Voilà, les parents peuvent beaucoup souffrir parfois lorsqu'ils voient leurs enfants exposés à ces déviances. Mais on va les culpabiliser. On leur dit que si ils n'adhèrent pas aux idées de leurs enfants, eh bien, ils les poussent au désespoir, voire au suicide. Et puis, pour favoriser aussi ces idées transgenres, hein, on va le comprendre mieux en parlant de la révélation, mais la pornographie omniprésente favorise énormément cela. Hein. Puis vous avez des influenceurs qui agissent surtout sur les adolescents qui sont plus vulnérables, hein, et on les incite à tromper leurs parents quand ils ne soutiennent pas certaines de leurs idées. Voilà. Bon, il faut comprendre que la personne grandit et pour à l'âge de la puberté, il peut y avoir le corps se développe et on devient on l'est déjà, mais si vous voulez, la masculinité ou la féminité s'affirme. Et donc, c'est une étape. Hein. Il peut y avoir des fois des petits questionnements qu'on se pose. C'est pas grave, hein. Voilà, mais après, ça se stabilise, c'est normal. Mais si on utilise la faiblesse de l'adolescence, eh bien, on peut avoir beaucoup d'influences néfastes. Alors, ceci, c'est pour dire ce qu'est le gender, hein, et un peu comment il s'impose. Après, on va essayer de voir ce qu'il y a par derrière, comme quelle anthropologie il y a. Alors, soit une anthropologie dualiste, celle du gender, ou au contraire une anthropologie unitaire, qui est plus dans, qui est dans la réalité. Alors, une anthropologie dualiste, ça veut dire qu'il y a deux composantes, hein, pour la personne humaine. Vous avez un corps matériel, et puis un moi intérieur immatériel, qu'on appelle esprit, âme, conscience. Mais ce qui est important dans cette conception-là, c'est de dire que seul le moi intérieur immatériel définit la personne. Lui seul. Hein? Tandis que le corps, il devient un simple matériau, on l'utilise, c'est un objet. Ce n'est pas moi, c'est quelque chose que j'ai, quelque chose que je possède, qui est à ma disposition. Hein? Bon, et. Dans cette anthropologie-là, voyez, on estime qu'il peut y avoir des souffrances, une détresse identitaire, des troubles de santé qui peuvent découler de l'inadéquation entre l'identité du genre que je ressens, je me sens ceci, cela, et ma réalité biologique. Voilà. Donc c'est une souffrance et il faut essayer d'accorder les deux. Donc une anthropologie dualiste, hein. Il y a deux composants qui n'arrivent pas à se rejoindre. Hein. Ça correspond en gros à l'idée de Descartes. Vous aviez la pensée, voilà, et puis d'un côté la pensée, et de l'autre côté le corps. Le corps, c'était de l'étendue, de l'espace. Et la pensée, c'est pas de l'espace, et puis le lien entre les deux est impossible. C'est un petit peu la même chose, en tout cas, ça se rapproche. Donc, une anthropologie dualiste. Et face à cela, vous avez une anthropologie unitaire. Alors l'Église, hein, c'est indiqué aussi dans le catéchisme de l'Église catholique, hein, indique que l'âme est la forme du corps. Ça veut dire, si vous voulez, on a une structure dans notre corps. Hein, on a des bras, des jambes, etc. Et tout cela donc est structuré, c'est organisé. Et c'est organisé et c'est vivant. Eh bien, ce qui nous fait un être vivant, ce qui nous fait un être humain, c'est notre âme. Voilà qui est le principe structurel non seulement de la pensée, mais aussi du corps. Alors, comment cela peut-il se faire? Vous voyez, quand un enfant est conçu, vous avez une réalité biologique qui se déroule. Hein, vous avez une fécondation et on peut dire que tout le patrimoine génétique est constitué de façon biologique. On va dire sans qu'un principe spirituel n'intervienne. Hein? Mais on regarde l'être humain et l'être humain, on s'aperçoit qu'il a une dimension spirituelle qui dépasse le donné biologique. Hein, on est capable, pour le manifester, d'avoir des pensées, d'avoir des décisions qui peuvent aller radicalement même contre l'intérêt immédiat du corps. Par exemple, vous avez une perception morale, hein, le bien, et vous voulez refuser une compromission et vous allez mourir. Parce qu'il y a un idéal très fort là qu'il faut défendre et le corps va mourir. Bien. Donc il y a quelque chose de, en nous, il y a un principe qui dépasse la réalité biologique, mais qui l'assume. Alors je voudrais donner juste un exemple pour montrer comment l'âme est la forme du corps. C'est ce qui est arrivé à une personne âgée. Elle était à l'hôpital et on voulait abréger sa vie parce qu'elle souffrait, etc. Heureusement, il y avait sa fille qui la protégeait et elle a résisté. Hein? Et juste avant de mourir, donc la dame âgée a ouvert les yeux. Elle avait les yeux marrons. Et là, elle avait les yeux très bleus. Et quelque chose de brillant, quelque chose de céleste, de divin. Voilà. Et puis, elle s'est endormie. Enfin, elle est morte. Et eh bien, vous voyez, ça montre combien, à travers le corps, aussi, l'esprit s'exprime dans le corps, hein, profondément. Et il est vraiment la structure du corps. Là, c'est une grâce qui est donnée de façon plus particulière. Donc, notre corps est un corps humain. L'âme est le principe de l'organisation du corps. Quand Dieu crée l'âme, si vous voulez, eh bien, il l'a créée, on va dire, dans un corps, selon ce corps. Et ce corps devient le corps de cette âme. Et c'est cette âme qui fait que c'est un corps humain. Voilà, et nous sommes un, hein, une réalité vraiment une. Voilà. Et alors, c'est ainsi que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, spécialement par son âme, qui est capable d'intelligence et de volonté, mais le corps qui est informé, dynamisé, structuré par l'âme, le corps participe à la dignité, de l'image de Dieu. Hein? Et il est appelé à la résurrection, il est appelé à vivre de la vie éternelle de l'âme. Et vous voyez, dans l'anthropologie dualiste, qui est liée au gender, la mort peut être conçue comme une libération de l'âme. Ça correspond en gros à l'idée qu'avait Platon, un philosophe de l'Antiquité. Bon débarras. Hein? Et dans la perspective chrétienne, la mort, c'est plutôt la personne qui est tronquée, qui est privée d'une de ses dimensions constitutives essentielles. Hein, et on aspire à retrouver la plénitude, hein, mais il faut bien sûr un corps qui soit en pleine harmonie, en pleine unité avec l'âme. Alors, donc, une anthropologie unitaire. Et on va regarder maintenant la réponse médicale au gender. Alors, vous voyez, ceux qui sont favorables au gender vont dire qu'un homme biologique, un garçon, on va dire, peut très bien ne pas se sentir à l'aise à jouer avec des voitures et des petits camions, dans les jeux un peu virils, pas trop à l'aise, et puis il est facilement blessé dans sa sensibilité, dans les rapports avec les garçons, ça peut arriver, etc., etc. Bon, vous pouvez avoir une fille qui, au contraire, est beaucoup plus à l'aise avec les garçons parce qu'ils sont plus simples. Et et elle peut se sentir assez mal dans sa peau, etc. Hein? Bon. Mais il faut dire que tout cela ne définit pas ce qu'est un homme ou ce qu'est une femme, ce qu'est un garçon, une fille ou une fille. Car il peut y avoir un important chevauchement entre les intérêts des garçons et des filles. C'est vrai qu'il y a des tendances assez nettes. Hein? Si vous avez un groupe de filles adolescentes, vous avez un bébé qui passe, c'est bon, c'est pas la peine de lancer une activité à ce moment-là. Elles sont là. Oh. Il est trop chou, il est trop beau, etc. Les garçons, ça leur fait ni chaud ni froid en principe. Hein? Ils continuent leur jeu, ils continuent leur jeu. Mais ça ne veut pas dire que le garçon peut être insensible au bébé. Il peut, hein, tout à fait. Et les filles aussi peuvent avoir une façon d'être voilà, spéciale. Bon. Mais, voyez, donc, il ne manque pas d'hommes très intuitifs, C'est les femmes qui sont plus intuitives en général, dotées d'une grande sensibilité, hein, mais ils sont quand même pleinement hommes. Et il ne manque pas non plus de femmes qui sont très capables d'organiser, de planifier, mais souvent, dans leurs responsabilités, elles le feront de façon plus humanisante. Parce que c'est un peu un don spécial de la femme de mettre plus d'humanité au milieu des réalités humaines. Voilà. Donc tout cela est possible, mais ça ne détermine pas si c'est un homme ou une femme. Et puis il faut être clair. Il faut être clair. Hein. L'identité masculine et féminine est déterminée au niveau cellulaire et dans chaque cellule du corps. C'est pas simplement un ou deux organes, c'est tout le corps qui est fait, chaque cellule, jusqu'à 30 milliards de cellules qui sont soit XX, soit XY. Et ça, c'est une réalité objective qui ne change pas. Vous voyez, à ce niveau-là, on peut dire que c'est faramineux la capacité d'aveuglement et la capacité de mensonge. C'est extraordinaire. On a du mal à le concevoir. C'est un peu comme pour l'avortement. Quand pour l'avortement, on vous dit « la femme a droit de disposer de son corps ». Mais enfin, comment peut-on dire cela ? On sait très bien que l'enfant qu'elle porte en elle, le fœtus qu'elle porte en elle, il a une constitution chromosomique qui n'est pas celle de la mère. Il tient la moitié de la mère et la moitié du père. C'est évident scientifiquement. Voilà. Et on va nier ça. On va dire qu'elle dispose de son corps alors que ce n'est manifestement pas son corps. Bon. Et pareil, au niveau de l'identité masculine-féminine, c'est inscrit dans toutes les cellules du corps et on est capable de le nier et de trouver des arguments pour dire c'est pas ça, c'est pas vrai. Voilà. Là, vous avez, si vous voulez, par rapport au sentiment, au ressenti. Le ressenti est fluctuant, il peut changer. La réalité biologique, elle demeure. Et puis, une bonne médecine, elle sait faire la distinction entre ce qu'on ressent et puis les soins médicaux qu'il faut apporter. Prenons une personne qui souffre d'anorexie mentale. C'est assez pénible. Et elle peut être des fois très maigre et avoir l'impression d'être trop grosse. Et on en est convaincu. Et donc, il faut maigrir absolument. Que va faire le médecin ? Il ne va pas lui dire « c'est votre ressenti, donc continue à maigrir ». Non. Le médecin va se référer à la réalité biologique objective et il va essayer par une psychothérapie, par de l'éducation nutritionnelle, de l'exercice physique sain, etc., d'aider cette personne à dépasser son ressenti pour qu'elle puisse à nouveau se nourrir convenablement et mener une vie normale. Voyez, eh bien, il peut en être de même dans ses ressentis. Hein? D'autant plus que l'expérience montre que les personnes qui se sont allées, qui ont été emportées, souvent en étant victimes, hein, à des chirurgies transgenres, arrivent à le regretter amèrement, mais c'est un peu tard. C'est un peu tard, et on a profité de leur adolescence, de leur faiblesse pour les induire en cela. Et il y a des pays, le Danemark, la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni, qui reconnaissent les effets néfastes à long terme des traitements médicaux et chirurgicaux qui vont dans le sens transgenre. Et désormais, ils privilégient la psychothérapie pour les jeunes, pour les aider à retrouver un certain équilibre. Il faut être attentif aussi que beaucoup de ceux qui souffrent, qui ne savent plus où ils en sont, hein, ont pu vivre des événements très négatifs dans leur enfance, qui les ont troublés. Bien, il faut les aider, il faut les accompagner. Et puis, il y a une autre réalité biologique qu'il faut prendre en considération. Il est assez connu que dans la Seine, il y a beaucoup de poissons, moins peut-être, et qu'ils ont du mal à se reproduire actuellement, et que les mâles sont beaucoup moins caractérisés comme mâles et qu'ils deviennent stériles. Et à quoi cela est-il dû ? À toutes les pilules qui sont absorbées et qui sont rejetées. Et quand l'eau est traitée, les hormones ne sont pas détruites. Donc les poissons en avalent sans arrêt. Et ça introduit un certain désordre. Heureusement, la nature est forte. Heureusement. Et ils arrivent quand même, vaille que vaille, à se reproduire. Mais c'est plus difficile. Alors, on peut se poser la question, n'y a-t-il pas aussi une incidence sur l'homme? Là encore, ne croyons pas qu'on va être déterminé entièrement par ça, quand on a des capacités de réaction. Hein, l'âme influe sur le corps, on peut réagir à pas mal de choses. Mais quand même, il faut être attentif à cela. Alors maintenant, si vous voulez, on a regardé d'un point de vue médical, on va regarder du point de vue de la révélation. Alors là, c'est, on peut intituler là la splendeur de la révélation. C'est très beau. La révélation est d'abord la révélation de la création. Nous sommes créés par Dieu. Hein? Vous avez deux récits de la création dans le premier livre de la Bible, hein, la Genèse, au chapitre 1. On relève juste ces expressions. Dieu créa l'homme à son image, il le créa. Il les créa homme et femme. Homme et femme, et pas autre chose dans la Bible. Il n'y a que ça qui est indiqué. Hein? Et il leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Et soyez féconds, multipliez-vous, ça va avec homme et femme. Hein? Parce que si c'était femme et femme, c'est difficile d'être fécond. Hein? De même, homme et homme. Voilà, donc soyez féconds. Et Dieu dit, il vit ce qu'il avait fait et cela était très bon. Hein? Donc la création, telle que nous la recevons de Dieu, elle est très bonne. Après, on regarde le deuxième récit. Alors ça, c'est la création, premier récit en 6 jours. Hein. Ça, c'est le sixième jour dont nous venons de parler. Dans le deuxième récit de la création, vous avez le jardin, et puis Dieu crée l'homme. Et après, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il crée Ève. Alors, voilà ce qui est dit pour la création de l'homme. Dieu modela l'homme avec de la poussière tirée du sol, et il lui insuffla un souffle de vie. Alors, on relève, poussière tirée du sol, et puis après, souffle de vie. Ensuite, vous avez la création de la femme, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein? Et que fait Dieu? Il prit une côte d'Adam et il en façonna la femme et il la présenta à l'homme qui a dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Alors, relevons ce qui est dit dans la Bible au niveau de la création. Pour la création de l'homme, on parle de la terre et vous avez un souffle de vie. Pour la création de la femme, on parle de la chair, et ensuite elle est présentée à l'homme, hein, et elle est son égale. Ça veut dire que la dimension corporelle est vraiment constitutive au moment de la création. Ce n'est pas quelque chose de rajouté. Ce n'est pas un moi intérieur comme ça auquel on va rajouter un corps après. Non. C'est un peu comme dans la création de chaque être humain. Vous avez une fécondation biologique et Dieu crée l'âme. Il insuffle un souffle de vie. Donc, la dimension corporelle est vraiment constitutive de l'homme selon la création. Et il est dit que l'homme s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Alors, quand l'homme voit la femme, il dit, ah, et c'est un cri de joie, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Et il est heureux. Hein? Et il va s'attacher à sa femme. Alors dans cet attachement à sa femme, bien sûr qu'il y aura une dimension spirituelle, c'est évident. Il faut une union des cœurs, il faut une union des âmes. Mais c'est une union qui englobe toute la personne aussi dans sa dimension physique, hein, corporelle. Et ils ne feront plus que un, une seule chair. Une seule chair, ça veut dire comme une seule personne, avec union des cœurs et union des corps, pleinement. Et nous dit le texte de la Genèse, tous deux étaient nus et ils n'avaient aucune honte l'un devant l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une harmonie. Il n'y avait pas de trouble avant le péché. Le corps était pleinement animé par l'âme sans qu'il y ait de conflit entre la dimension physique et spirituelle. Ça marchait bien, de façon bien une. Une. Et après le péché, qu'est-ce qui se passe? Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus et ils durent se couvrir. Ça veut dire qu'il y a une division qui a pénétré. C'est normal, c'est le diable. Le diable, c'est le diviseur. Il sépare. Hein? Donc, il a mis le trouble et on a, par le fait même, un peu plus de mal à saisir le corps comme dimension constitutive de la personne. C'est un peu ce qui transparaît dans ce texte-là. Et ce qu'on peut relever, c'est le germe, hein, l'apparition de ce qu'on appellera l'impureté. Voilà, ils sont obligés de se couvrir. Et de fait, on voit dans l'histoire de l'homme, hein, beaucoup d'impureté qui va se développer comme un véritable fléau. Hein, conséquence du péché et conséquence du rejet de Dieu. C'est la conséquence du rejet de Dieu. Parce que Dieu avait dit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Et Satan a dit si. Hein, Dieu a peur que vous soyez comme lui. Si vous en mangez, vous serez comme des dieux. On a rejeté Dieu, voulu prendre la place de Dieu. Conséquence, désordre, division, impureté et beaucoup de fléaux. Voilà ce que nous révèle la création. Après, vous avez l'épisode de Sodome, on va le passer rapidement, mais c'était un neveu d'Abraham. Il habitait dans la ville de Sodome et il y a deux visiteurs qui viennent, hein, deux hommes, et puis les habitants de Sodome veulent en profiter, veulent abuser de ces deux hommes-là. Et Lot, le neveu d'Abraham, résiste. Dieu intervient pour l'aider. Hein, et puis il y aura un châtiment. Sodome va périr sous le feu du ciel, tomber du ciel. Voilà, donc, et Sodome, la ville de Sodome, a donné son nom à une pratique homosexuelle qu'on parle de sodomiser, etc. Ça vient du nom de cette ville. Alors maintenant, regardons Saint Paul. L'enseignement de Saint Paul, d'abord dans la lettre aux Romains, il est très clair, il dit exactement ce qu'on vient d'énoncer à l'instant. Hein? Il dit les païens, ils avaient ce qu'il fallait pour reconnaître Dieu dans la création, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont échangé la gloire du Dieu impérissable contre des idoles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ils ont déshonoré eux-mêmes leur corps. Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, à des rapports contre nature. Donc, il est dit, voilà, les femmes se sont désirées les unes les autres et les hommes ont brûlé de désir les uns pour les autres. C'est très, très clair dans la lettre aux Romains. Vous voyez, le lien, hein, rejet de Dieu, et apparaît comme un châtiment de Dieu l'impureté, et puis des désordres homosexualité. Alors évidemment, Saint Paul, il ne va pas parler des transgenres, hein, ça n'existait pas à l'époque, et pour ça, il faut des opérations qu'on ne faisait pas à l'époque. Mais c'est exactement dans ce sens-là que va le désordre. Bien. Et puis, Saint Paul est clair, hein, voilà, pour dire que c'est mal. Ne vous y trompez pas, dit-il dans la première aux Corinthiens, hein, ni les dépravés, ni les sodomites, donc on sait ce que c'est un sodomite, hein, aucun d'eux ne recevra le royaume de Dieu en héritage. Et il a une haute conception de l'homme dans son âme et dans son corps. Vous savez, on dit des fois que les chrétiens méprisent le corps, mais des phrases, des expressions aussi fortes sur la qualité du corps, et aussi élogieuse, on n'en trouve pas comme on en trouve dans la Bible, et en particulier sous la plume de Saint Paul. Hein. Il dit, le corps n'est pas pour la débauche, il n'est pas fait pour ça. Le corps est pour le Seigneur. Ah, oh, quand même pas mal. Et pire que ça, le Seigneur est pour le corps. Ouh. Donc le Seigneur veut, hein, quelque chose de beau, de saint, S-A-I-N, et puis S-A-I-N-T aussi. Ne le savez-vous pas, vos corps sont les membres du Christ. Ça, c'est dans ce que Saint Paul explique. Quand on est chrétien, le Christ est notre tête et nous, on est les membres. La tête, les membres. Et on forme avec le Christ comme une seule personne. Et aussi avec notre corps. Dans nos corps sont les membres du Christ, nous dit Saint Paul. Donc n'en faites pas n'importe quoi. Hein? Ne savez-vous pas, dit-il encore, que vos corps sont les sanctuaires de l'Esprit Saint. Donc glorifiez Dieu dans votre corps. En particulier en vivant la pureté. Et là, tous les désordres du genre s'évanouissent. Hein, dans cette perspective-là, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Et si on veut le comprendre en profondeur, il faut regarder Jésus. Notre Seigneur, il est la plénitude de la révélation. Alors pour ça, vous avez d'abord, hein, Saint Jean. dans son évangile, qui est particulièrement lumineux, nous énonce le principe qui éclaire tout. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Hein, le Verbe, la parole de Dieu, la parole était Dieu, le Verbe c'est le Fils. Hein. Voilà, le Verbe, le Fils était Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Extraordinaire. Ce que jamais, jamais, aucun homme n'avait pensé, jamais aucun homme n'avait pu imaginer une réalité pareille. Dieu s'est fait chair, il a pris une humanité avec un corps et une âme. Voilà ce qu'a fait le Fils de Dieu. Donc par le fait même, la réalité humaine de Jésus est entraînée dans la divinité, elle va prendre un sens tout à fait nouveau. Hein, et il va nous sauver à travers son humanité corporelle et spirituelle, les deux à la fois. Il est dit, par exemple, que toute la foule se pressait contre Jésus et cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. C'est à travers le physique de Jésus hein, que ceci se passait. Hein. Et les phrases qui ont fait fuir, qui ont scandalisé les auditeurs au début, hein, quand Jésus a parlé de la très sainte Eucharistie, hein, en Saint Jean au chapitre 6, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang » à la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Alors, d'abord, laissons-nous choquer par cette parole, enfin, l'aspect très concret, hein, manger, et littéralement, c'est mâcher, comme ça. Voilà. Hein. Celui qui mâche ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Donc, à travers le corps très saint de notre Seigneur, nous recevons son humanité très sainte, aussi son âme spirituelle et la grâce, et nous recevons la vie éternelle. Hein, donc le corps de Jésus a un sens vraiment divin. Et il nous promet, moi je le ressusciterai au dernier jour. Hein, notre corps est appelé à être transfiguré, hein, à être très beau. Tout à l'heure, on a parlé de cette dame, juste ses yeux, hein, qui avant de mourir ont été particulièrement beaux et lumineux. C'est une petite évocation de ce que sera la résurrection. Hein, nous aurons un corps transfiguré, mais ce sera ce corps-là, mais transfiguré, transformé, élevé, mais bien celui-là. Hein, voilà. Donc, nous sommes appelés à la résurrection, et celui qui mange ma chair demeure en moi, et moi je demeure en lui, donc c'est une vie en Jésus. Hein, être chrétien, c'est ne plus vivre pour soi-même, ne plus vivre seul, mais c'est vivre de la vie même de Jésus notre Seigneur. Et cela se fait entre autres par le fait de recevoir son corps et son sang dans la Sainte Eucharistie, avec bien sûr dévotion et prière et un cœur ouvert. Hein, cela nous transforme. Bon, et puis dans l'Épître aux Hébreux, vous avez quelque chose de très fort aussi qui est exprimé. Hein, elle est d'inspiration paulinienne. Et vous avez une évocation du sacrifice rédempteur de Jésus, hein, où il est dit « En entrant dans le monde, le Christ a dit » Alors le Christ, donc c'est-à-dire le Fils de Dieu fait chair, hein, le Christ. Hein, « En entrant dans le monde, donc le Fils de Dieu fait homme, a dit « Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as façonné un corps. » Donc dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices de taureaux, de boucs, de tout ce qu'on veut. Hein? Tu n'as pas voulu cela, mais tu m'as façonné un corps qui va être offert en sacrifice. Hein? C'est cela qu'a fait. Et donc, il est dit, moi, me voici. C'est Jésus qui parle, le Fils en entrant dans le monde. Me voici, je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et c'est grâce à cette volonté du Fils, fait chair, qui est venu faire la volonté du Père, que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps. Donc nous sommes sanctifiés par le sacrifice de la croix, hein, qui a évidemment une dimension corporelle et aussi bien sûr une dimension spirituelle énorme, hein, maximale. Quand Jésus sur la croix a cette prière « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il vient rechercher l'homme qui s'est éloigné de Dieu, hein, dans son corps et dans son âme, il va le rechercher dans les profondeurs des ténèbres pour le ramener à Dieu. Hein, et Jésus, en mourant, dira « Père, dans tes mains, je remets mon esprit. » Donc l'homme retourne à Dieu par l'offrande de Jésus-Christ. Hein. Donc nous pouvons, cela nous donne une dimension tout à fait nouvelle hein, du corps humain, et on voit qu'il est sanctifié par le Christ. Et Jésus était un homme masculin. Voilà, Jésus s'est incarné, c'est le Fils de Dieu fait chair, s'est incarné dans un être humain masculin. Je précise, parce que homme, ça peut vouloir dire homme-femme, hein, si ça peut dire être humain. Non, non. Mais voilà, cela. Mais c'est l'homme et la femme qui sont sanctifiés. Et vous avez la Sainte Vierge. Voilà. Elle est l'Immaculée Conception. Elle est le temple de l'Esprit-Saint. Elle est le modèle de la femme. Hein, de la femme belle, sainte, immaculée, en laquelle le péché n'a pas eu d'atteinte. Hein, et donc, aucun désordre en elle, aucune impureté, elle est l'Immaculée Conception. Et c'est cela qui nous attire beaucoup, hein, et nous en avons besoin. Et nous sommes sauvés, vous voyez, à l'origine du péché, il y a une femme et un homme. Ève, Adam. Et à l'origine du salut, vous avez une femme et un homme. Dieu a voulu que l'incarnation du Fils de Dieu soit précédée du oui de la Vierge Marie, de son oblation totale à Dieu. Vous voyez, elle avait la foi en Dieu. Elle a choisi Dieu. Donc elle a été l'Immaculée, toute pure. Et le Verbe s'est fait chair en elle. Et nous avons vraiment besoin des deux. Vous voyez, un garçon affermi sa masculinité dans sa relation filiale avec son père et avec sa mère. Les deux, ça l'aide. Et une fille va affermir sa féminité aussi dans ses relations filiales avec sa mère et avec son père. Et elle a besoin des deux. Et dans la révélation chrétienne, il nous est donné un homme et une femme. Alors un homme qui est en même temps Dieu et une femme qui est pleinement humaine. Et nous devenons plus pleinement humains. Homme. Regardez un homme qui était particulièrement viril. Viril, hein, au sens le plus noble du mot. C'est Saint Jean-Paul II. Et Saint Jean-Paul II, plus filial envers la Sainte Vierge, c'est difficile. Hein, plus enfant envers la Vierge Marie. Alors, cela doit nous éclairer. Alors, en conclusion, eh bien, on va dire ceci. Acceptons avec reconnaissance d'être des créatures. Acceptons. Vous voyez ? Si on existe, on n'y est pour rien. On ne l'a pas choisi. Hein ? Personne d'entre nous ne l'a choisi d'exister. On le reçoit. Ben, soyons heureux d'exister, c'est bien, zut. C'est bien. Et que les garçons soient heureux d'être des garçons. Et remercient d'être des garçons. Amen. Et que les filles soient heureuses d'être des filles et qu'elles remercient d'être des filles. Vous voyez ? Regardez la Sainte Vierge. Ecce, me voici, me voici, me voici, Seigneur, je suis là. Fiat, ça veut dire je consens, j'accepte mon Dieu tel que tu m'as fait. Et puis d'être homme, une créature, homme, femme, et puis aussi, vous savez, pour la joie spirituelle. Acceptons nos limites, acceptons nos défauts. Voilà. Aimons nos défauts, même constitutifs, si vous voulez. Aimons nous, comme Dieu nous a fait. Et vous en trouverez le Magnificat. Parce que à travers ce que nous sommes, vous savez, c'est une tentation assez récurrente hein, de ne pas s'aimer soi-même. C'est une tentation très, très, très fréquente. Voilà. Eh bien, acceptons, aimons, comme Dieu nous a créés. Et vous trouverez le Magnificat. Voilà, parce que le Seigneur veut faire des merveilles à travers ce qui est faible. Alors donc, acceptons d'être des créatures. Comprenons, c'est le deuxième point. Que les tensions entre le corps et l'âme remontent au péché originel. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, et que cela conduit à l'impureté. Très fortement. Très fortement. Et que l'impureté conduit à beaucoup de désordres. Tous les désordres LGBT, trans, etc. Bon. Donc, menons le combat olympique de la pureté. N'ayons pas peur, même si on a été blessé. Hein, ne nous effrayons pas si on ressent des choses, des fois, qui nous déplaisent fortement, même à ce niveau-là. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ne nous inquiétons pas, mais tournons-nous vers Jésus. Il nous équilibrera dans l'adoration, dans la communion eucharistique, dans la confession, on confesse ses péchés, ses désordres, et petit à petit, on lutte et on reçoit des forces et on s'équilibre. Et on devient plus homme et plus femme. Ah, on a vu des fois, en particulier, je pense à une ou deux jeunes filles qui étaient abîmées, et qui se sont tournées vers Dieu, et qui se sont mariées, et qui sont devenues vraiment, et ça se voyait, c'était beau, plus femme. Voilà, c'est bien. Vous voyez, c'est la grâce qui fait cela. Donc, menons le combat olympique de la pureté, attachons-nous à notre Seigneur, et confions-nous à Notre-Dame-des-Neiges, l'Immaculée, elle nous guidera.